RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec vous bien évidemment tous les jours de 9h à midi. Si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est toute l'émission et puis c'est aussi les petites anecdotes qui se racontent en off pendant la pub. Et je vous conseille d'aller écouter tout ce qu'on a pu se raconter, notamment sur la Saint-Valentin, entre autres, ou est-ce qu'un coup dans un couple on doit avoir les mêmes idées l'un et l'autre.
Voilà, les mêmes idées politiques.
C'est les mêmes idées politiques. C'est déjà en ligne, bien évidemment, sur l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. Antoine Dierce, consultant juridique, est là, tout comme Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Fatima Hidbounoua, la professeure de français, et on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il est député socialiste de l'Essonne, candidat à l'élection présidentielle. C'est Jérôme Guedj qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Vous êtes devenu
Madame,
fou.
Madame, messieurs.
Non. Vous êtes devenu fou? Je dis ça parce qu'il paraît que la présidentielle, ça rend fou.
C'est justement, ça rend fou quand ça s'éloigne de l'essentiel. Voilà. Donc vous dites, je suis fou parce que j'ai présenté ma candidature. Je défends des idées depuis des années, j'ai eu l'occasion de les exprimer ici. Et j'étais un peu abasourdi, désemparé de voir que, à l'approche de cette élection présidentielle, au moment où on a un peu de stabilité institutionnelle, en gros, parce qu'il n'y a pas de menace de dissolution, les budgets sont votés, et moi j'y ai contribué, juste pour que l'année 2026, elle permette d'avoir un vrai débat sur les sujets de préoccupation, ceux que vous abordez sur votre plateau, et que, à gauche notamment, on n'arrive pas pour l'instant à mettre sur la table. Moi je défends ce que j'appelle la gauche républicaine, on va en parler pour savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une gauche responsable, crédible, sérieuse sur le régalien, intransigeante sur les questions de laïcité, d'universalisme, et en même temps qui veut s'attaquer aux maux de la société, les problèmes de logement, d'accès à l'emploi, les questions de défense, les questions de sécurité. Moi je veux qu'on parle de tout ça sérieusement, et pas qu'on parle de la tambouille de est-ce qu'il faut une primaire, quel est le périmètre de l'alliance, on part des préoccupations des Français. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire.
Et Raphaël Glucksmann, il le fait pas.
C'est de la folie d'aller au bout de ses convictions. Peut-être. Mais voilà, la présidentielle, c'est un truc bizarre dans la vie politique. C'est la rencontre, paraît-il, d'un homme ou d'une femme avec le pays. Moi, je préfère parler de la rencontre d'idées. Et puis, il y a évidemment une incarnation. Moi, j'ai été élu local pendant longtemps, je suis député. J'ai des convictions, un tempérament, un style, et puis je les mets au service du débat.
Mais ça veut dire que dans le personnel politique à gauche, personne ne porte ce que vous portez en fait. Mais vous dites autant que j'y aille moi-même parce que les autres ne portent pas.
Mais d'abord,
ce que vous venez de détailler.
Mais d'abord, pour l'instant, les autres n'ont pas fait acte de candidature.
Il y a aussi beaucoup qui sont sur la ligne de départ.
Si on veut réellement faire vivre le débat et avoir le temps d'exposer ses propositions ou d'habituer les Français à la volonté qu'on a sérieuse d'aller dans ce rendez-vous démocratique, je pense qu'à un moment donné, il faut le dire. Alors, nous, à gauche, on a un problème de dispersion et plutôt que de se focaliser sur le mode opératoire, tranchons les débats de fond.
Mais vous êtes où, vous? Parce qu'il y a deux gauches. Il y a une gauche radical qui est aujourd'hui incarné par les Insoumis, avant c'était le Parti communiste, et puis il y a la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate. Mais vous n'êtes pas forcément cette gauche social-démocrate, parce que je me souviens parce que vous étiez un frondeur à François Hollande qui incarnait la gauche social-démocrate. Vous faisiez partie des députés frondeurs à l'Assemblée nationale contre la loi travail, etc. Vous êtes où en fait?
Moi, c'est ce que je vous dis. Intransigeant sur les questions républicaines, sur les valeurs, ce qui me distingue probablement de la France insoumise, parce que je pense qu'il y a des moments où on peut pas avoir des passerelles. Et on a eu des ruptures majeures, et moi je les assume, je les ai assumées dans ma vie politique. Voilà, j'ai refusé en juillet 2024 d'être candidat dans le cadre de l'accord du Nouveau Front Populaire avec le soutien de la France insoumise, parce que à un moment donné, il faut savoir être cohérent et prendre le risque. J'ai pris le risque, j'ai eu une candidature soutenue par la France insoumise devant moi. Donc voilà, sur ces valeurs-là, j'ai des désaccords. Et puis, par contre, je pense qu'il faut résolument s'attaquer à des sujets que peut-être une gauche d'accompagnement trop molle n'a pas suffisamment pris en compte. La question du pouvoir d'achat, la question du logement. La question, vous savez, moi, j'ai envie de porter ces questions-là dans la présidentielle parce que personne n'en parle jamais. c'est les fragilités, c'est les vulnérabilités qui nous concernent tous. Hein. Le grand âge, le handicap, la longue maladie, les cancers, le fait d'être aidant. Il y a 11 millions d'aidants dans ce pays qui parlent de leur situation et on est aidant, qu'on soit riche, pauvre, à la campagne ou en milieu urbain. Et c'est cette gauche du réel et des solutions que je veux essayer de porter avec d'autres.
Vous l'opposez à ce que vous avez appelé il y a un instant la gauche molle. C'est qui incarne la gauche molle?
Non mais alors, je vais pas François
Hollande.
Non
mais incarner la gauche molle.
Non, Raphaël Glucksmann, c'est la gauche molle.
Il y a une gauche qui est n'a plus séduit pendant toute une période.
Non, mais elle, qui
il y a une gauche. Non mais attendez.
Non mais elle est bien incarnée cette gauche molle.
J'essaie de rassembler. Je vais pas commencer à donner à sniper c'est, les uns et les autres.
Pour être clair pour les gens, Monsieur Guedj,
vous voulez c'est quand même une gauche de rupture que vous l'incarnez.
Je pense qu'il y a des ruptures à faire. Mais pas du yaka faucon. Pas demain on rase gratis.
La rupture avec ce qu'on a vécu là avec Emmanuel Macron, quoi, par exemple.
Évidemment, je pense que le macronisme, c'est-à-dire la confusion droite-gauche, c'était un pari audacieux en 2017. Il aurait pu marcher et tuer le game de la vie politique. C'est pas ce qui s'est passé parce que en réalité. Ça n'a pas été un véritable en même temps et il y a eu un tropisme très déséquilibré, on va dire, sur sa jambe droite. Donc oui, je pense que il peut y avoir des ruptures. Enfin, j'aime pas le terme rupture pour rupture, mais le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on en parle depuis des années et on s'accommode du fait qu'ils ne progressent pas et qu'on continue à avoir des gens.
Et j'ai pas eu ma réponse sur la gauche molle. Je voulais savoir qui aujourd'hui est symbolisé cette gauche molle.
Non mais encore une fois, je vais pas sniper des gens avec lesquels je veux essayer.
C'est vous-même
aussi
qui qualifiez une gauche de molle. Donc je veux savoir qui est cette gauche molle.
Eh bien, c'est celle qui ne répond pas aux préoccupations de nos concitoyens.
Moi, celui que je vois aujourd'hui qui est candidat, et vous arrivez en embuscade, c'est Raphaël Glucksmann. Donc, si vous arrivez pour incarner la rupture,
vous savez, regardez,
c'est face à Glucksmann. La gauche molle, c'est Glucksmann.
Raphaël, pour l'instant, n'a pas mis sur la table les propositions qu'il envisage.
C'est Glucksmann.
Il n'appelle, je fais pas de procès d'intention.
Mais c'est pas un procès d'intention.
Non, je dis juste que il y a cet espace politique dans ce pays qui est une gauche de transformation radicale.
Je revendique la gauche de rupture. Et de transformation
comme un réformiste radical. Voilà, c'est pas une contradiction. Voilà.
Alors, on y va. Question de nos GG. Ouais.
Moi, je me lance parce que je pense qu'on a pas touché le cœur de votre existence, entre guillemets, de la réalité de votre candidature. C'est qu'en fait, vous êtes fondamentalement contre la gauche islamo-gauchiste de LFI. C'est ça la différence. Et donc, en réalité, il y a une gauche islamo-gauchiste que vous avez laissé exister. Et aujourd'hui, il y a toute une partie de cette gauche qui se réveille en disant, mais enfin, on peut pas être dans les mains de ces islamo-gauchistes. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu Autain, Ruffin, Tondelier, tous ceux qui essayent de recréer une gauche qui serait pas communautaire comme ça. Vous êtes un peu en Ligue 2 aujourd'hui, malheureusement, par rapport au mastodonte LFI. Et donc, moi, j'ai une question, quand est-ce que vous allez dire les choses plus clairement? Vous êtes de cette gauche qui en avait marre de voir l'islam et les questions communautaires mis en avant par Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes.
Alors, je vais dire des choses. Je supporte pas que vous disiez cette gauche qui a un problème avec l'islam. Ça veut dire quoi d'avoir un problème avec une religion en particulier? C'est ce que vous venez de dire.
Non.
Par contre, j'ai un désaccord avec tous ceux qui renoncent à ce qui fait l'identité de ce pays, qui est une identité républicaine, dans lequel la laïcité, l'universalisme, le refus de l'assignation identitaire, le fait qu'on s'adresse à la communauté nationale et pas à une somme de communautés.
Donc, pas d'idée racialiste.
Aucune idée racialiste.
Donc,
pour moi, c'est le refus. Et je vois,
en effet,
je vois une partie de la gauche qui a dévié sur ces thèmes.
C'est ce que je voulais vous dire.
Tout à fait incontestablement. Non, mais il y avait une formulation. Je veux dire, voilà. Vous savez, dans le pays, il y a un fait religieux. Et on le voit notamment chez les jeunes. Il y a un sondage de l'IFOP ces derniers jours qui m'a un peu mis le vertige. C'est-à-dire qu'on voit chez les jeunes des valeurs très très conservatrices sur tout un tas de sujets.
Plus que chez leurs parents.
Et notamment
religieuses. Religieuses en l'occurrence.
Conservatrices. Conservatrices sur plein de thématiques. Et c'est notamment corrélé à au niveau d'intensité de la pratique religieuse. Le fait religieux, c'est de la sphère individuelle. Et moi, je suis fidèle à la loi de 1905. On a fêté les 120e
année. C'est une affaire privée.
C'est une affaire privée. Et moi, je m'oppose. Voyez, en ce moment, on va débattre de la fin de vie à l'Assemblée nationale. Oui. Le texte revient. Oui. Que les cultes expriment leur position, c'est légitime, c'est des acteurs du débat. Mais stop. Voilà. La religion, elle reste dans la sphère privée et elle n'irrigue pas le débat public.
En même temps, vous croyez au miracle.
Non, je crois. J'ai l'optimisme de la volonté. Voilà, parce que sinon, je ferais pas de la politique. Sinon, je resterais à la maison et je me dirais que les autres se débrouillent. Voilà. On prend des coups quand on s'engage en politique.
Oui,
on
le fait. Mais vous êtes un peu, d'une certaine manière, l'opposant préféré de la Macronie, parce qu'on vous voit ce matin à nouveau gendre idéal socialisme. Malheureusement, mais plein d'énergie, vous tonnez à la tribune, vous éructez, vous contestez, vous protestez, mais le moment venu, vous êtes là pour boucler le budget, une sorte de roue de secours, un pneu galette macroniste, mais plus fondamentalement, par cette candidature, vous êtes raccord avec les Jeux Olympiques, parce que vous portez très haut la mémoire du baron Pierre de Coubertin avec sa fameuse devise, l'important c'est de participer.
Ouais, l'important c'est de participer, mais en participant on a la possibilité de gagner. Et très sincèrement, moi j'assume parce que vous avez raillé
est-ce que vous avez été la roue de secours du macronisme,
galette, je sors justement des postures en politique. L'idée de se dire, ah bah j'ai raison tout seul, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc qu'est-ce qu'on voulait? Une dissolution, une démission du président de la République, le chaos institutionnel, une présidentielle anticipée?
Pourquoi pas?
Et ou un budget dégueulasse, ce qui aurait été le cas si on avait laissé passer le budget initial. Moi j'ai assumé.
Oui, mais
Le compromis, c'est la politique. Voilà. Et moi j'aime bien quand il y a une majorité nette.
Compromis ou compromission?
Mais non, mais justement, c'est là toute la différence. C'est la même chose dans votre couple. Vous avez des désaccords. Vous faites pas des compromissions quand vous écoutez la parole de l'autre. Et c'est le point d'équilibre dans le pays. Donc moi j'ai des convictions, je les mets dans le débat. Et c'était pas une béquille du macronisme. Je suis dans l'opposition. Ah, il y a pas d'hésitation. Et c'est ce que je vous disais au début de notre échange, que 2026 nous permette de préparer cette présidentielle et qu'on mette tous les sujets sur la table. Et je trouve que pour l'instant,
vous êtes toujours ambigu au Parti Socialiste.
Alors,
parce que là,
dites-moi,
vous avez voulu aussi, en faisant acte de compromis, vous détacher de la France Insoumise et pour vous dire, voilà, au Parti Socialiste.
On a voulu être utile et pas stérile.
Voilà. On est raisonnable, utile, on fait avancer le pays. Sauf que là, dans quelques semaines, il y a les municipales. Va se poser la question d'alliance, forcément au second tour, entre insoumis et socialistes. Et là, on sait très bien qu'à un moment donné, il y aura des alliances. Donc, vous tenez un discours.
Moi, je le souhaite pas.
Vous ne souhaitez pas l'alliance.
Il faut être cohérent. On peut pas dire c'est pas de même nature d'être dans une élection municipale que dans une élection nationale.
Donc
un
pas
conseiller municipal ou un maire adjoint, eh bien il est aussi quelqu'un qui relaye la parole politique du chef national, quelqu'un qui vote aux élections sénatoriales, donc qui est dans le débat public national. Donc je pense qu'à un moment il faut avoir de la cohérence. Et quand il y a des gens, j'entends Jean-Luc Mélenchon qui dit au municipal punissez les socialistes. Bon, écoutez, moi, c'est pas ma conception du débat politique d'être comme ça dans l'invective.
Fatima Hidbounois.
Quand j'entends les mots que vous utilisez, enfin et certains éléments de langage, j'ai l'impression d'entendre le fils caché d'Emmanuel Macron et de Monsieur Valls.
Oh,
vous voyez, c'est vraiment Macron 2017. Donc il y a vraiment ce mélange-là. Donc pour aller au-delà des éléments de langage, et parce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un dire, vous avez dit, on va être utile, sérieux, crédible. Personne va arriver en disant, je suis le président, je veux être inutile, flasque et tout foutre en l'air. Donc ce sont des mots. Quels sont vous avez parlé de pouvoir d'achat et de logement pour faciliter l'accès au logement des classes moyennes et pour donner du pouvoir d'achat aux gens qui souffrent actuellement et qui travaillent, aux travailleurs pauvres notamment, mais aussi à toutes les classes moyennes finalement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes président, tac. Quels sont, mais concrètement, sans aucune formule, sans élément de langage, une proposition de loi?
Il faut immédiatement augmenter le pouvoir d'achat des salariés et c'est le salaire. Aujourd'hui, il y a un niveau de cotisation, c'est une proposition qu'on avait faite au niveau du salaire, avec notamment la CSG, proposer de baisser la CSG entre 1200, 1300 euros et 1800, 1900 euros avec une CSG progressive. De l'autre côté, revenir sur une partie des exonérations, parce qu'il faut bien financer la sécurité sociale, sur une partie des exonérations de cotisations sociales dont une partie des entreprises bénéficie. Il le faut pour certaines, pour soutenir leur compétitivité leur marge, mais il y en a d'autres pour lesquels c'est des effets d'aubaine. On peut pas être une entreprise qui a des exonérations de cotises et qui augmente les versements de dividendes à ses actionnaires. Donc moi, je suis pour réformer radicalement le financement de la sécurité sociale pour que elle permette de redistribuer du pouvoir d'achat, pas sous forme de prime d'activité, là, c'est ce qu'on vient de faire dans le compromis. C'était pas ma solution idéale, l'augmentation de la prime d'activité, parce que c'est du salaire subventionné. Moi, c'est les entreprises qui doivent verser un salaire brut qui est plus proche du salaire net. Mais comme il faut financer la sécurité sociale, de l'autre côté, il ne faut pas revenir sur des exonérations de cotises. Vous parlez du logement. Voilà. Dans ce pays, on ne produit pas assez de logements, alors que c'est un secteur absolument indispensable, que ce soit de l'accession à la propriété ou que ce soit même du logement social, avec des gens qui sont congelés dans leur logement social. Il faut faciliter, notamment pour les collectivités locales, tout ce qui est production.
Mais dans ce cas-là, il faut réduire des normes, parce que
j'allais y venir.
C'est à cause de ces normes aussi que ça prend du temps de construire en France. Hein.
Il y a des exigences de protection de l'environnement, de règles relatives à l'inondation, à la transition écologique. Il y a des moments sur la production logement. Là, on est en train d'organiser une catastrophe en puissance. J'ai un collègue parlementaire qui vient de remettre un rapport sur un sujet connexe qui est la chute de la natalité. Et il y a cette formule qui a été utilisée, c'est-à-dire la politique du logement en France, c'est celle qui dissuade le plus de faire des enfants. Parce que quand on peut pas avoir une chambre de plus ou une autre chambre de plus,
on
ne fait pas d'enfants, on reste canassé. Moi, je suis pas un décroissant. Je veux qu'on fasse plus d'enfants dans ce pays. Je veux que il y ait une croissance sobre.
Qui a supprimé l'universalité des allocations familiales? C'est François Hollande. Qui a réduit le quotient familial? C'est François Hollande.
J'étais opposé à l'époque parce que je suis attaché à l'universalité des allocations familiales.
Donc, qu'est-ce que vous proposez?
Un autre exemple sur le pouvoir d'achat, sur un sujet dont on ne parle jamais. J'ai levé le lièvre juste avant les fêtes. Pourquoi on a encore un système avec une assurance maladie obligatoire et puis des mutuelles ou des assureurs privés qui vous remboursent le même risque? Ça nous coûte un pognon de dingue, 8 milliards d'euros par an. Quand vous payez 100 euros de cotisation pour votre mutuelle ou votre entreprise ou votre assureur, il y en a 15 euros qui vont dans les frais de gestion. Alors que la Sécu, quand elle vous rembourse, eh bien, il y en a que 3 ou 4 euros qui vont dans les frais de gestion. Pourquoi on a la cohabitation? Moi, je suis pour la grande Sécu. Une Sécu unique.
Plus de mutuelle.
Plus de mutuelle entre plus de mutuelle,
alors. On continue la discussion.
Attendez. Pour tout le monde.
On continue la discussion avec Jérôme Guedj, candidat à l'élection présidentielle. Dans un instant, il est 11h20. Vous êtes avec nous sur RMC et RMC Story dans les grandes gueules.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules avec aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle, c'est Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, qui est avec nous. Fatima Hidbounois.
Vous vous effaceriez pour quelqu'un comme Ruffin? Parce que je réfléchissais à ceux qui vous ressemblaient.
Mais moi, je veux absolument travailler avec François Ruffin, qui a une voix qui est précieuse dans le débat politique à gauche, parce qu'il fait justement cette jonction entre des choses que je porte, c'est tenir compte des attentes des catégories populaires, de la classe ouvrière qui existe dans le pays, même si on a continué à l'invisibiliser, et qui est assez réglo, même totalement réglo, sur les questions républicaines. Voilà. Donc, il s'agit pas de s'effacer, il s'agit de travailler ensemble et de regarder si on est d'accord sur un socle programmatique dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Il s'est fait aussi quand même pas mal canardé par ses anciens amis de la France insoumise. Alors, donc, on a cette expérience-là en commun et donc je pense que il s'agit de constituer une équipe, de pas être dans l'aventure individuelle, mais on le fait sur une clarté des propositions.
Mais qui incarne? Qui incarne? Parce que vous avez parlé d'incarnation. Donc quand je dis qui incarne,
on avance.
C'est Jean-François Ruffin.
Mais c'est celui qui se dégagera. Peut-être qu'il y a une modalité de départage qui peut être une primaire, qui peut être un consensus qui se dégage. Mais encore une fois, c'est pas le baltrap ou c'est pas le casting, c'est pas un concours de beauté. C'est qui est le plus à même de porter la ligne sur laquelle on s'est mis d'accord et surtout, je le dis, on en parlait pendant la pause, surtout qui est capable, en se hissant au deuxième tour,
de gagner
et donc de recueillir des voix de gens qui ne viennent pas de cette famille politique, qui ne viennent pas de la gauche, mais qui disent,
donc, faut pas être
ils
poussoir.
Sont au deuxième tour face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen possiblement. Eh bien, je suis prêt à voter pour eux parce qu'ils ont cette culture du compromis ou en tous les cas, ils ne sont pas dans une délimitation fermée.
Une question sur la nomination annoncée d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Ça vous choque ou pas?
Alors, s'agissant de... Bon, vous savez que je connais bien Amélie de Montchalin. Mmh. Elle était la députée dans ma circonscription. Je l'ai battue en 2022. Elle est devenue à ce moment-là ambassadrice de l'OCDE, puis elle est revenue comme ministre des comptes publics, et c'est là que j'ai négocié longuement les budgets. Donc, techniquement, en termes de compétences, j'ai rien à dire. C'était plaisant, même si on n'était pas d'accord, d'avoir cette discussion, et elle connaît bien les finances publiques. Il y a un problème principal que tout le monde a levé, c'est le fait de passer immédiatement de la ministre des comptes publics à présidente d'une institution qui va juger de ses comptes et évaluer les politiques publiques dont elle a eu la responsabilité. Ça n'est jamais arrivé dans ce laps de temps. Dans le passé, il y a eu des politiques. Philippe Séguin, il est devenu premier président, mais il n'avait plus été ministre depuis plusieurs années. Pierre Moscovici, même chose.
Il y a un conflit d'intérêts ou je sais pas.
Non, mais il y a quelque chose qui est malaisant. Voilà, pour une institution, à un moment, ou face au rouleau compresseur réactionnaire, parfois illibéral, au complotisme ambiant, il faut préserver nos institutions sur lesquelles le pays repose. Voilà. Et la Cour des comptes en fait partie. Donc.
Mais le message que ça renvoie, c'est qu'une appropriation du pouvoir, d'un pouvoir finissant, celui d'Emmanuel Macron, puisque dans plus d'un an, il ne sera plus là, et on a l'impression qu'il veut pouvoir nommer ses fidèles au poste clé avant une alternance. Est-ce que c'est pas problématique quand même?
Cette impression-là.
Est-ce qu'il
ne
faudrait pas fixer des règles, peut-être, sur ces nominations,
avec des critères? Sur les nominations, attendez, sur les nominations, on a un problème gigantesque, c'est qu'on est encore dans l'héritage de la monarchie républicaine. Oui. Alors ça a été compensé, mais par exemple, pour le président du Conseil constitutionnel, ou quelques nominations, il y a une sorte de validation par le Parlement.
D'ailleurs, Richard Ferrand, ça s'est fait à une voix.
Par contre, pour la Cour des comptes, il n'y a pas.
Bah, peut-être qu'il faudrait.
C'est une nomination sèche qui doit intervenir en ce moment-là dans le Conseil.
C'est inamovible.
C'est aussi une des autres questions qui est posée, parce qu'en théorie, elle est là pour 28 ans. Elle a 40 ans, c'est inamovible jusqu'à l'âge limite, qui est l'âge de la retraite à la Cour des comptes, 68 ans. Et donc, ça dit quelque chose. Évidemment, personne n'envisage qu'elle reste 28 ans. Donc, si elle reste un certain temps, qu'est-ce qu'on fait après avoir été premier président de la Cour des comptes?
Est-ce qu'on revient
dans le monde économique? Il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est d'ailleurs bizarre de vouloir mettre les Français à la retraite à 62 ans et dans les institutions de rester en poste fromage de la République jusqu'à 68 ans.
L'échange avec vous ici. Moi, je pense qu'il faut en finir avec l'âge légal de départ à la retraite. Il faut le moduler en fonction de la pénibilité, des difficultés d'exercice.
Vous êtes sur la durée de cotisation.
Ce travail avec la durée de cotisation. Et un premier président de la Cour des comptes ou un directeur ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité dans une entreprise, etc., lui, il peut travailler plus longtemps.
Oui, oui. Et puis, l'autre question d'actualité, c'est l'affaire Epstein, avec un volet français. On a appris qu'un diplomate du Quai d'Orsay avait une correspondance importante avec Epstein. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire pour faire justement la lumière sur tout ça?
Avant que vous ne répondiez, Jérôme Gage, désolé, mais on a le direct, on a les Jeux Olympiques, on a des Français qui sont au Super G aujourd'hui.
RMC, alerte, Milan Cortina.
RMC, la radio officielle de ces Jeux Olympiques d'hiver, Milan-Cortina. On va retrouver Léna Marjac, parce qu'on a trois Français en lice pour le Super G aujourd'hui. Le premier à s'élancer, c'est Nils Allègre, Léna.
Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, Nils Allègre qui vient de partir à l'instant sur cette piste du Stelvio à Bormio. Et malheureusement, il n'a pas vraiment eu de chance avec le tirage au sort, parce qu'il part avec ce dossard 1 et le Super G. C'est une discipline où il faut y aller un petit peu à l'instinct. Il va découvrir, après juste une reconnaissance de 90 minutes, cette piste aujourd'hui et ce tracé. Et je suis avec Sébastien Amier pour commenter cette descente, ce Super G aujourd'hui de Nils Allègre. Et pour l'instant, il va faire le temps de référence, Sébastien.
Et oui, comme tu le dis, pas facile de s'élancer avec le 1 hein, sur une piste où il y a beaucoup de mouvements de terrain, des portes à l'aveugle. En tout cas, la piste, il la connaît puisqu'il a pratiqué les entraînements descentes, il y a eu les courses et il faudra sortir la meilleure course. Le ski juste pour l'instant, c'est du bon ski.
La position de recherche de vitesse pour Nils Allègre, 107 km/h sur cette piste pour le tricolore, le premier à s'élancer. Ils seront trois aujourd'hui. On le voit tout de suite dans le saut du San Pietro, ce saut assez impressionnant de la piste de Bormio, cette piste qui est exigeante, qui est très très physique, Sébastien.
Oui, cette piste qui est très physique, même s'il avait neigé un petit peu cette nuit. Hein. Les conditions de neige ont l'air très bonnes. En tout cas, on le voit vraiment prendre du plaisir, vraiment faire du bon ski. Attention, hein, avec un dossard, des fois ça peut être aussi un avantage parce que forcément il n'y a pas de point de repère, mais il peut créer la propre ligne qu'il souhaite et qu'il désire.
1 minute 14 pour l'instant d'effort pour Nils Allègre. Il est dans la dernière partie de cette piste. Il va franchir cette dernière porte. Le Français, le premier à s'élancer pour ce Super G olympique. Nils Allègre qui va passer la ligne d'arrivée à l'instant. 1 minute 25 d'effort. C'est donc le temps de référence pour ce Super G. Nils Allègre, le Tossard. Hein, et on aura deux autres Français qui vont s'élancer un peu plus tard. Élise Alpan, Élésie Canaferina, Tossard 25 et Nils Alphan, Tossard 26.
Merci Léna Marjac. S'il est premier, c'est parce que c'est le seul à être descendu. C'est lui qui va faire le temps de référence. C'est vrai que c'est pas la meilleure des positions pour l'ami Nils Allègre.
Alors, on retourne sur
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
On retourne sur la piste politique avec Jérôme Gage. L'affaire Epstein, est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire?
En tous les cas, il faut tordre le cou aux soupçons naissants d'une pieuvre tentaculaire et de choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une commission d'enquête. Il y a beaucoup trop des commissions d'enquête. Il y a la justice qui est saisie dans certaines situations. Il y a des enquêtes administratives qui le sont à d'autres moments. je pense que ça vaut le coup que soit envoyé le signal qu'on regarde toutes les situations, qu'elles soient dans l'administration, dans les entreprises, dans la diplomatie, dans le monde culturel, dans le monde politique, évidemment, parce que s'il y a la moindre impression d'omerta, alors ça va alimenter les pires délires, parce que ça nourrit aussi des délires complotistes. Tout ce qu'on voit là a des éléments dégueulasses, tout dans le volet pédocriminel, évidemment. Et puis, il y a des éléments assez insupportables dans cette complaisance, dans ce monde de l'argent qui se croit tout permis, tout possible, dans une situation d'impunité.
Vous parlez de complotistes et dragos. Jack Lang, c'est votre famille politique. Mmh. Vous avez vu tout ce qui se dit sur Jack Lang. Les socialistes l'ont protégé. Il savait, c'était un homme d'argent. Il essaie des ardoises. Il est dans les réseaux. Ça, qu'est-ce que vous répondez?
Moi, sincèrement, je connaissais pas les ardoises de Jack Lang. S'il y a des choses financièrement répréhensibles, il doit être sanctionné. S'il y a des choses pénalement répréhensibles, il doit l'être. Et il a bien fait de démissionner. Parce que il y a une institution derrière, l'Institut du monde arabe, qui est importante pour la diplomatie et pour la culture. Donc, il a bien fait de préserver.
Mais il n'y a pas d'omerta sur Jack Lang.
Ben, il n'y a pas de raison d'avoir une omerta sur qui que ce soit. Je veux dire, en politique, si on donne l'impression, parce que franchement, on n'est déjà pas très aimé par l'ensemble de nos concitoyens, si on donne l'impression d'un entre-soi qui se protège ou qui a une fascination d'abord pour les gens qui ont du pognon en se disant ils vont me rendre des services, etc. Voilà, il faut être vertueux en politique. Moi, je suis attaché à la vertu républicaine. Alors, je mets de côté, évidemment, parce que c'est avant toute chose, le fait de respecter la loi d'un monde dans lequel l'abus de mineurs, les abus sexuels sont une normalité ou font partie d'un folklore, ça c'est à gerber. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà.
Question avec un accent gaulien.
Oui.
Croyez-vous vraiment, sincèrement, que vous allez être élu président de la République?
Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai l'optimisme de la volonté. Et je suis convaincu que ce que j'ai fait dans ma vie politique, j'ai été élu local, j'ai présidé un département, j'ai été parlementaire avec un niveau d'expertise que je mets au service du collectif, et j'ai des convictions. Et vous savez quoi, je suis même prêt à prendre des risques. Voilà, le courage, qu'il soit physique, moral, politique, je l'ai expérimenté. Je pense que dans la période, on a besoin de gens courageux, parfois nuancés. J'appelle ça le courage de la nuance, pour être capable de rassembler les Français plutôt que de les opposer les uns aux autres. Écoutez, voilà, après c'est les Français qui trancheront, c'est un beau rendez-vous démocratique, mais lançons-le dès à présent.
Mais ce courage c'est de terminé. La nuance, et ça ressemble pas justement à ce que proposait Macron. On a beaucoup ri du « en même temps », le « et ».
Non,
il n'est pas dans « en même temps ».
Vous vous trompez, le courage de la nuance, c'est avoir des convictions fortes, mais être capable de les verser dans un débat qui est celui de la dispute apaisée et de construire des compromis.
Sans anathème.
Voilà, vraiment la brutalisation de la vie politique. Le côté « j'ai raison tout seul » et on s'oppose les uns et les autres, c'est l'impuissance de l'Assemblée aujourd'hui. Et voilà, et je trouve que c'est un peu facile d'être dans les outrances à un moment où, vu les menaces mondiales, vu les risques dans le pays, les inquiétudes individuelles et collectives, apaisons et soyons rassemblés. Et c'est peut-être un vœu pieux, mais dans la période, le pays a besoin de ça.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
Jérôme Gage. Il est midi moins 25 dans un instant. La relance de la natalité, un congé de 9 mois répartissable entre conjoints, est-ce que c'est motivant pour faire des bébés? On va en discuter avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grands miels avec aujourd'hui Emmanuel Devilliers, avec Antoine Dierce et avec Fatima Aïd Bounois. On discute, on débat avec vous bien évidemment. Et là, j'aimerais bien vous écouter sur ce fameux nouveau congé de natalité pour relancer les naissances en France. En fait, c'est un rapport qui a été rendu par une commission à l'Assemblée nationale face à la baisse de la natalité. Donc, il faut relancer les naissances et pour ça, on envisage entre 9 et 12 mois de repos indemnisé 80% et qu'on pourrait se partager entre les conjoints.
Notamment, il y a ça. Il y a aussi un prêt à taux zéro pour la naissance. Donc, en fait, la question est de savoir, est-ce qu'il va falloir acheter bientôt les bébés? C'est-à-dire qu'il va falloir donner de l'argent aux Français, leur permettre de partager leurs congés, leur offrir des congés naissance payés à 80% de salaire. Pour avoir des enfants, il faut en passer par là?
Antoine,
moi je suis très partisan de ces mesures incitatives, d'une politique familiale forte. J'irais même plus loin, moi j'irais sur une prime naissance, 10 000 euros, 15 000 euros.
Alors là, t'es pour l'argent public déversé.
Attends. Si on s'installe à la campagne, etc. Voilà, on peut réfléchir à tout ça. Mais en réalité, le sujet, il n'est pas que matériel et il est loin d'être uniquement matériel. Le sujet, pour moi, il est dans la confiance en l'avenir. Les Français font plus d'enfants. Parce que rien ne fonctionne dans notre pays. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de place en crèche. Parce que la sécurité n'est pas assurée dehors. Donc, tu fais pas d'enfants quand tu vis dans ce système-là. Moi, je suis trentenaire. Autour de moi, on travaille trop. Ouais. On sait pas de quoi sera fait demain. On paye trop d'impôts. Donc, on fait pas d'enfants. Et il y a un deuxième aspect des choses, hors du matériel. C'est aussi le couple. Je suis pas un spécialiste, mais pour ce que j'en vois autour de moi, c'est que les couples français, les couples en France, vont pas forcément très bien. La relation entre hommes et femmes est compliquée aujourd'hui. Les hommes
tu veux
qui...
te confier
Non, mais je parle pas de moi pour le coup. Je suis pas un spécialiste. Mais ce que j'essaie de vous dire.
Non, mais attendez, j'ai un cœur à prendre.
Je suis très sérieux. Merci pour la promotion.
Appelez-nous au 32-16. Mais on peut mettre en relation.
On a aujourd'hui. En plus, il est armé chez lui.
On y vient. On a aujourd'hui l'incapacité. La capacité d'être un homme protecteur, un père protecteur. La virilité, la masculinité, elle est assez décriée.
Attends, sur ton profil donc, Tinder, tu poses avec ton fusil.
Tu peux changer de sexe aussi.
Non plus, c'est pas le
fait. C'est une obsession.
Ce que j'essaye de vous dire, c'est que de nos jours, les femmes qui aimeraient être des mamans tendres ont un impératif sociétal de dire tu dois travailler, tu dois être forte, etc. Et les hommes qui aimeraient être des papas un peu ours, viens, on va bricoler, on va aller dans le jardin, ils ont un impératif sociétal d'être un homme domestiqué au foyer. Et donc, en fait, je pense que le cœur du sujet est là. C'est redonnons la capacité aux femmes d'être femmes, aux hommes d'être hommes, pour que les couples soient équilibrés et que l'enfant puisse être accueilli dans de bonnes conditions.
Fatima, est-ce que toutes ces mesures vont aider ?
Juste, je vais revenir sur ce qui a été dit sur... figure-toi que là, justement, en 2026, il y a le retour, et notamment sur Instagram, de toute la tendance tradwife, ouais. La femme traditionnelle, où on se filme avec l'idée de retour au foyer et tout ça. Donc, ce n'est pas aussi manichéen que ce que tu penses. C'est-à-dire, on n'est pas... Il y a un retour vers ces valeurs-là. Et même le papa ours, il y a une tendance aussi de l'homme, l'homme viril qui assume une virilité.
C'est pas une tendance, elle a jamais disparu.
Moi,
je n'ai jamais cru, je vais te dire autre chose, je n'ai jamais cru que les femmes voulaient des hommes qui leur ressemblent. Moi, je ne crois pas à cette théorie. Non. Je pense que les femmes aiment bien avoir des hommes qui sont des hommes. Je dis pas forcément pas macho, con, quoi, etc. Mais qui assume d'être un homme, qui assume sa virilité, qui protège, etc. Ce que je dis, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais je suis persuadé. Et je pense que si on interroge vraiment le cœur des femmes, elles préfèrent avoir des hommes qui assument d'être des hommes que des hommes qui
elles le comprennent qui seraient, tardivement. Elles le comprennent à 35-40 ans et elles ont passé 15 ans à dire non mais moi je veux un mec qui s'occupe de moi, il est à la maison, c'est moi qui choisis ce qu'on regarde sur Netflix et tout. T'as toute une génération comme ça et elles deviennent comme tu le dis mais plus tard.
J'y crois pas une seconde.
Après pour le militantisme, pour les féministes c'est l'égalité en des droits, l'égalité des droits, être payé de la même manière et tout ça. C'est
ça je suis d'accord.
Le militantisme, je veux que tu portes les mêmes robes que moi.
Bien sûr, l'égalité salariale, bien entendu.
On a Hubert qui est avec nous, qui nous appelle des Landes. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour. Alors, bonjour à toute l'équipe. Alors,
salut,
bonjour Hubert.
Je vais attaquer sur le volet. Alors, vous parlez de sociétal. Bon, ce que j'entends, ça me mérite un peu le poil parce que j'ai 62 ans. J'ai eu deux enfants, 30 ans et 26 ans actuellement. Je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu honte, je dis bien, à les promener en poussette, à leur laver le cul, à les changer, à les suivre, à faire tout ce qu'il fallait en tant que papa, de leur donner le biberon. Au contraire, j'en étais même fier de le faire. Fier de le faire, vous entendez ? C'est pas une histoire d'être masculiniste ou pas. J'étais fier. Mon épouse, pourtant, a pris 3 ans de congé parental pour la deuxième. Ça ne m'a pas empêché d'être présent. Voilà.
C'est
et
bien.
Je continue à être présent maintenant, même qu'ils aient 26 ans et 30 ans. Bon, ça, c'est une chose.
Est-ce qu'ils veulent des enfants,
justement, n'en veulent pas.
Pourquoi ?
Ils ne veulent pas faire d'enfants. La raison, c'est simple. C'est l'état sociétal de ce pays. Et surtout, ce qui est en train d'être mis en place, quand vous entendez un patron des patrons dire qu'il veut créer un SMIC jeune à 30 ou 50% pour un temps complet d'un SMIC normal, qu'il vive ce monsieur avec un SMIC normal déjà, et on verra ce qu'il dira. Alors imaginez qu'un demi-SMIC, et faire des gosses avec ça, pour en faire des abandonnés, des enfants, dans je dirais, des... Ça me révolte. À moins qu'on veuille avoir des orphelinats remplis de gosses abandonnés parce que les parents n'ont plus les moyens. C'est ça qu'on veut dans ce pays.
Il faut d'autres, vous dites.
Enfant, on le fait parce qu'on a envie d'en faire un et l'aimer. L'aimer et être présent pour
lui. Et il faut leur donner confiance dans l'avenir. Moi, aussi, c'est ce que vous dites,
Hubert. Le protéger et le faire grandir.
Ouais. J'aime beaucoup ce que je viens d'entendre parce que vous voyez bien qu'il y a les trois dimensions. Lui, il parle de avoir les moyens affectifs, voilà, et donner, être présent, les moyens matériels aussi, et la confiance. Ce côté confiance en l'avenir. Et ça joue. Et c'est souvent sous-estimé. On dit, on va te donner des petits sous. Mais logement, sécurité, confiance en l'avenir. Parce qu'effectivement, rien qu'on parlait, regardez la dernière fois que je suis venue, on parlait du professeur qui a été poignardé. Rien que ces idées-là, tu dis, je vais avoir un enfant, je vais le poser à l'école. Est-ce qu'il va rentrer de l'école? Vous voyez toutes ces questions-là. C'est des questions, c'est l'instinct du nid et de la protection. Donc tout ça joue.
Emmanuel.
Bravo Hubert pour son énergie, sa sincérité. Moi, j'ajouterais une remarque plus technique. On parle beaucoup des congés de naissance.
Comment faire les enfants?
Mais il faut souligner vraiment avec force que vu de l'intérieur des entreprises et même des administrations, les congés de naissance déstabilisent énormément le fonctionnement des structures parce que les gens disparaissent, ils ont un savoir-faire spécifique pour les remplacer. Quand ils reviennent, on s'est réorganisé par rapport à leur absence. Donc c'est une notion que les politiciens manient, les congés de naissance, que ça fait, c'est plaisant comme ça comme promesse, mais c'est pas réaliste par rapport à la vie concrète, notamment des entreprises privées.
Il y a quelque chose, je remercie Hubert d'avoir été avec nous, je trouve bizarre, c'est toujours de lier le congé de naissance au repos. Derrière, de s'occuper de ses enfants. Or, on est dans une société, c'est un peu contradictoire, où on veut que tout le monde travaille, remettre tout le monde au travail. En même temps, quand t'as un enfant, on veut te donner entre nous 9 et 12 mois de congé.
C'est pas pour se reposer, c'est pour s'occuper de l'enfant. Non, mais si tu l'allaites, par exemple, parce que t'accouches, tu vas l'allaiter.
Que tu peux partager, puisqu'on appelle ça. Donc, la génération de nos parents, ils ont bossé, ils ont élevé les enfants. Enfin, tes parents ont bossé tous les deux. Donc, si tu veux, c'est plus lié aujourd'hui au coût de la vie qu'autre chose.
Logement.
Et rien qu'avoir une
logement, c'est de la vie. Bien
tu
sûr.
Sais que quand t'es enceinte,
donc moi je pige pas.
Tu sais que moi quand j'étais enceinte,
il vaut mieux faire des réformes du pays, des réformes de l'État, plutôt que de dire vous pouvez avoir un congé parental de 9 à 12 mois, quoi. Mais vous pouvez partager.
Là, actuellement, quand t'es enceinte, moi je me souviens très bien, quand j'étais enceinte, j'ai été surprise, parce qu'il fallait inscrire ton enfant dans ta crèche, avant même que t'aies accouché. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas là, et t'es en train déjà de te préoccuper, parce que les places en crèche sont... Non mais, tu cours après, c'est très compliqué d'avoir une place en crèche dans les grandes villes.
Il y a 30 ans, c'était déjà ça.
Commençons par régler ce point, si tu veux que les gens fassent des enfants.
Non, mais il faut plus de place en crèche, ça c'est évident. Il faut aussi il faut aider effectivement les ceux qui travaillent à pouvoir confier leurs enfants à des gardes, des nourrices, des crèches. Il faut régler le problème du logement, ça c'est évident.
C'est pour filer 100 000 euros d'argent public, ça sert à rien.
Et il faut tenir un discours parce que il faut aussi tenir un autre discours si tous les jours on explique que c'est mieux d'être dans des espaces no kids parce que les enfants c'est chiant, ça fait du bruit. Si tous les jours on leur explique de toute façon la planète va cramer. Donc de toute manière, faisons pas d'enfants parce que on est trop nombreux et que l'avenir est très incertain. C'est sûr que tout ça ne donne pas envie aux nouvelles générations. Et si on passe notre temps à parler réforme des retraites, fin de vie, des sujets dont les jeunes de 25 ans n'ont rien à foutre, les débats sur la fin de vie, c'est ça qui va nous occuper.
Et des espaces. Donc,
voilà.
Parce que moi j'ai été surprise.
Parlons aussi de ce qui préoccupe nos jeunes.
On a Sabrina qui va intervenir. Sabrina, chef d'entreprise, maman de deux enfants. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Maman de deux enfants et chef d'entreprise.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'étais intervenue avec vous au parvis de la cathédrale quand vous étiez venue.
Ah oui, à Reims, effectivement. Oui.
Effectivement. Mm-hmm. Et donc, moi, en fait, je souhaitais intervenir parce que pour moi, il y a quand même trois problématiques. Donc, on a cette problématique du pouvoir d'achat, effectivement. Mm-hmm. Maintenant, avoir des enfants, ça coûte. Et on a beau dire, on est aidé, mais il y a quand même un reste à charge qui est quand même assez important. On a aussi ce problème de garderie. Alors moi personnellement, j'ai pas forcément les grands-parents prêts pour garder mes enfants.
Ça c'est vrai, les familles sont plus éclatées aujourd'hui.
Complètement.
Les familles sont plus éclatées. Alors on compte sur les grands-parents, mais les grands-parents, en fait, on les met en retraite.
Ils sont égoïstes en plus.
Ils ont plus envie.
Allez-y. Voilà. Et le troisième point.
On les met beaucoup plus tard en retraite. Donc il va y avoir une petite problématique. Et puis à l'école, excusez-moi, enfin quand on compte les vacances plus les ponts, etc. Mais franchement, il y a 5 mois de non travailler, c'est déjà une grosse galère. Et il y a également l'aspect économique en général. Donc là, je vais parler en tant que chef d'entreprise. Mais qui paye, en fait? Qui paye ses congés?
C'est ça, oui, c'est ça. Parce que toutes ces mesures très sympathiques que défend Antoine hier, c'est encore de l'argent public qu'on n'a pas.
Et je vais même aller plus loin. Je suis pour la rémunération du parent qui élèverait ses enfants.
Un revenu maternel.
Un revenu d'éducation, vraiment. Et je ne donne pas l'argent public facilement, mais ça économiserait tellement de choses. Ça ferait une meilleure éducation pour les enfants. Allez, 1 500 € pour ceux qui élèvent leurs enfants chez eux.
Et je rappelle, merci à Sabrina d'avoir été avec nous. Si vous qui aurez conclu la discussion, chef d'entreprise, maman de deux enfants. Et je rappelle que sur le plateau du GG, nous avons un célibataire, 35 ans, bonne situation, conseiller juridique, protecteur,
armé jusqu'aux dents.
Armé, il vit à Dunkerque, la ville en plein boom économique.
Carnaval dimanche.
Le carnaval, donc si.
Et Dunkerque, c'est la ville dynamique du moment.
Mais hein. Oui, tout le monde en parle. On va faire défiler mon numéro de téléphone, on va te les conseiller.
Les transports en commun sont gratuits à Dunkerque.
Bienvenue dans
Tournée Manège. Vous avez Malo-les-Bains, vous avez la Belgique à côté, profitez.
Et si tu es intéressé, je te ferai visiter personnellement.
Il fait moins 40.
Allez.
Pas du tout.
Vous pouvez contacter les grandes gueules au 32-16, on transmettra à l'ami
merci
Antoine Hirsch.
Merci Alain.
Prévoir un parapluie.
Antoine.
Ah c'est bon, mais qui?
Bien sûr. Bah écoutez, il y a l'une de nos chroniqueuses, Yael Mellul, qui elle-même est célibataire. Elle sera là dans un instant.
Ah bah voilà. Elle sera peut-être un peu en retard.
Un crossover entre les deux émissions.
Tournée Manège.
Si un jour on arrivait.
Dans un instant.
S'ils font des petits, tu m'en mets un de côté.
C'est horrible.
On aura un enfant RMC. Ce serait génial.
Il pourrait avoir deux chefs de Noël, dis donc.
Mais oui, et ça serait Karim Nedjari, son parrain.
Le parrain, bien sûr. Vous voyez comment on fait bien les choses, Antoine.
Ah, c'est vraiment tentant.
Karim Nedjari, c'est notre patron. Hein, c'est...
Alors, évidemment. Bonjour Estelle.
Oui, alors on va quand même débattre d'autre chose dans cette émission. Alors quand même, à 14h, nous aurons un petit sujet Saint-Valentin. Faut-il avouer une infidélité? C'est la question qu'on se posera. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de ce biathlète norvégien.
Ah oui,
c'est touchant.
C'était tellement touchant, pathétique. Oh, il était trop mignon.
Mais c'est trop chou. On
explique quand même. Médaille de bronze, et là il craque en direct à la télé. Il dit « La femme de ma vie est partie, j'étais avec elle depuis 6 mois, au bout de 3 mois je l'ai trompée. » Je lui ai annoncé il y a une semaine, j'ai vécu la pire semaine de ma vie. Et il est tellement mignon. Ça m'a touché.
Quel gland.
Quel gland.
Je ne peux jamais avouer.
Alors continue. Je ne
peux jamais avouer, dit Antoine Hirsch.
Voilà. Enfin, en tout cas, voilà.
Il y a une mélule de sage.
Tu vas rester célibataire. Viens. 32-16 pour nous raconter vos histoires croustillantes d'infidélité. On en parlera à 14h. On va redevenir plus sérieux dans un instant. On va parler de fonctionnaires plus 32 000 agents en 2024. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? C'était une promesse donc non tenue d'Emmanuel Macron. On en débat dans un instant avec vous. Et puis il y a un Center Park qui a décidé en fait d'offrir un dessert gratuit à tous ses clients qui abandonneraient leur téléphone portable à l'entrée du restaurant. Est-ce que ça c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ou est-ce que vous trouvez qu'on nous infantilise trop?
Je suis capable de faire pour
un dessert. Pour qu'on prenne pas
pour un dessert,
portable.
Je suis capable pour tout. Moi,
moi je le prends pas à table normalement. Bah, alors... J'ai un dessert pour. Enfin voilà, c'est cool.
Tu prends jamais à table.
Non, je prends pas mon téléphone, non. On mange.
Mais t'imagines que les gens, ils sont obligés d'avoir un dessert gratos pour ne pas regarder leur téléphone.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle entre midi et 15h. Bonne émission et à demain.